La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bien sûr, bienvenue dans la Semaine de l'Art, la quatrième édition déjà de cette émission radio, web radio, que nous enregistrons toutes les semaines et que vous pouvez écouter donc à partir soit d'un ordinateur, soit d'une tablette, soit même d'un smartphone en vous promenant dans la rue. C'est la magie de la technique, c'est la magie d'Internet. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Lesure. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Didier.
Vous êtes donc historien de l'art, spécialiste de Jean-Baptiste Marie-Pierre, sur lequel vous avez publié un superbe catalogue raisonné. Vous travaillez actuellement sur Pierre Sioblieras, nous parlerons de tout cela. Et vous êtes également membre du bureau d'Artena, ou en charge de certaines publications, et nous en parlerons également. Mais tout d'abord, la chronique, notre chronique hebdomadaire.
La chronique.
Nous avons eu la chance, avec quelques journalistes, de visiter le chantier du département des objets d'art au premier étage de la cour carrée du Louvre. Ces salles, qui vont de l'époque Louis XIII à l'époque Louis XVI, étaient fermées depuis 2007 pour des raisons de sécurité, les installations n'étaient plus aux normes, et de muséographies considérées comme désuètes. Il s'agit là d'un des plus gros chantiers du musée depuis l'ouverture du Grand Louvre, puisque les travaux ont coûté 26 millions d'euros, payés uniquement par les fonds propres du musée et par un mécénat provenant de diverses origines. Rappelons tout de même qu'initialement, le budget prévu était de 11 millions seulement, et que le chantier a dépassé largement ses délais, une première équipe ayant été retenue et à juste titre d'ailleurs, éjectée du projet. On sait que le décorateur Jacques Garcia, qui sévit déjà à Versailles, assiste depuis le Louvre dans ses travaux. Très franchement, on se demande pourquoi. On pourrait penser que le musée dispose chez les conservateurs du savoir-faire nécessaire pour les mener à bien. La muséographie, à notre sens, n'est pas affaire de décorateur. Du coup, on a ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Comme à Versailles, où Jacques Garcia officie également, le faux fête officiellement son entrée au Louvre. Car il s'agit ici de reconstituer des period rooms, c'est-à-dire de recréer un décor comme il existait dans son lieu d'origine. Ceci est possible lorsque l'essentiel de ce décor subsiste. Mais lorsqu'il n'existe pas, on le reconstitue d'après des documents plus ou moins fiables. L'ouverture au public de ces nouvelles salles est prévue le 6 juin prochain. Compte tenu des délais d'installation des œuvres d'art elles-mêmes, cette date semble très proche, puisque pratiquement rien n'est encore terminé. Si nous jugeons l'ensemble après l'inauguration, nous pouvons déjà faire quelques remarques. Positive d'abord, un grand nombre de décors étaient depuis toujours conservés en réserve. Leur révélation au public va faire l'effet d'une véritable redécouverte. Parmi ces décors, notons une chose tout à fait admirable, nous allons mettre des photos sur le site, la reconstitution de la rotonde Calais, c'est-à-dire la mise en place d'un plafond peint par Antoine Calais pour un pavillon de jardin, un rare exemple de peinture de plafond d'époque Louis XVI. Autre plafond intéressant, celui provenant du palais Pisani à Venise, autrefois attribué à Giovanni Battista Tiepolo, et qui est aujourd'hui donné à l'un de ses suiveurs, Giovanni Scargiario. En revanche, dans les salles que nous avons vues et pratiquement terminées, certaines reconstitutions sont beaucoup plus discutables. Citons ici le cabinet, entre guillemets, provenant de l'hôtel Le Bas de Montargis, place Vendôme. Sauf qu'ici, tout est copié ou inventé à l'exception de trois éléments. Deux étaient anciennement présentés dans les salles, un troisième a été retrouvé en réserve et avait conservé derrière une importante couche de crasse sa dorure d'origine. Ces trois éléments ne proviennent d'ailleurs pas de la même pièce. Le visiteur peut avertir ou a l'impression de visiter une pièce originale alors que presque tout est faux. Nous avons posé la question de savoir si ce qui est faux serait clairement signalé. On nous a répondu par l'affirmative. Il n'empêche que l'on sait que les visiteurs ne prennent pas toujours le temps de lire les cartels ou de consulter en détail les panneaux explicatifs, ou même les bornes interactives qui seront mises en place. Ils auront ici l'impression de pénétrer dans un décor 18e, admireront sans doute des lambris neufs ou les corniches reconstituées en pensant regarder des œuvres authentiques. Est-ce vraiment la mission du Louvre de montrer du faux? On peut se poser la question. On peut s'interroger également sur les surcoûts provoqués par ces reconstitutions, d'ailleurs fort bien faites. En fin de parcours, les salles sont couvertes de boiseries qui, manifestement, sont entièrement neuves. Là encore, est-ce bien dans les missions du Louvre de créer des salles d'exposition avec un faux décor 18e? Très probablement, une fois terminé, l'ensemble sera très beau et plaira beaucoup au public. Mais la question de l'authenticité dans un musée n'est pas anodine. Rendez-vous début juin pour une critique plus détaillée. Nicolas Lesure, avez-vous eu l'occasion de visiter ce chantier ou pas encore?
Non, alors malheureusement, j'ai pas eu ce plaisir. Je découvrirai ça sûrement comme un peu comme tout le monde au mois de juin. Donc je peux pas vraiment en parler sauf à l'avoir vu. En revanche, ce qui m'intéresse en plus pour ma période, c'est récemment, vous l'aviez d'ailleurs signalé sur le site La Tribune de l'Art, c'est que il y a deux tableaux de Michel-Ange Salles qui viennent d'intégrer les collections du Louvre, qui sont destinés à être exposés dans les nouvelles salles du département des objets d'art. Et c'est une donation privée, hein, qui je trouve très importante, parce que ça permet pour la première fois de faire entrer au Louvre des tableaux de cet artiste qui est peu connu. Spontanément, les Parisiens et les amateurs connaissent son tableau qui est à Saint-Roch, qui représente le Christ et le Centurion, mais sinon il n'y a pas de...
Très peu de gens doivent être capables de donner un
tableau. Oui, alors moi je suis un peu biaisé, parce que comme à Saint-Roch, il y a le chef-d'œuvre de Jean-Baptiste Marie-Pierre, forcément c'est une église que j'affectionne. Mais en tout cas, ça permet de montrer un artiste mal représenté jusqu'à présent, et qui est assez paradoxal, parce qu'on le connaît surtout comme dessinateur de ruines au moment de son séjour à Rome à la fin des années 1740, dans la mouvance de Piranèse. Il y a des tableaux qui
proche
sont
de Barbeau ou de...
Oui, mais un peu plus tôt, proche de Vien, proche de Piranèse, proche de Le Lorrain.
Robert Le Lorrain.
Louis-Joseph
Le Lorrain. Robert Le Lorrain.
Oui, il y en a quelques-uns.
Louis-Joseph Le Lorrain, pardon, je voilà. confonds également.
Et en fait, là, c'est des tableaux qui sont tout à fait dans le style ou dans la mouvance de ses maîtres, hein, Boucher et Lemoine, et plus adapté probablement au goût parisien de l'époque. Voilà.
Donc, en fait, vous êtes spécialiste du 18e siècle. Vous avez travaillé sur Jean-Baptiste Marie-Pierre, vous travaillez, on pourra parler également sur des autres choses sur lesquelles vous avez travaillé. Jean-Baptiste Marie-Pierre, donc vous avez publié il y a 4 ans,
oui. C'est sorti, le livre est sorti en décembre 2009, exactement.
Donc sur Jean-Baptiste Marie-Pierre, depuis la sortie de ce livre, avez-vous pu faire d'autres découvertes? Vous a-t-on signalé d'autres œuvres que vous n'aviez pas pu repérer à l'époque?
Alors, oui, mais beaucoup moins que ce que j'imaginais. Alors ça peut être une bonne nouvelle, parce qu'on peut se dire que le travail a été plutôt bien fait, et la moins bonne, c'est qu'on peut se dire aussi qu'il n'a pas été lu. Donc je ne sais pas très bien comment le prendre. En revanche, ce que je sais, c'est que pour donner quelques éléments, on a redécouvert 5 ou 6 tableaux, un ou deux assez importants, et une esquisse pour un carton de tapisserie qui était destiné à Marigny pour les Gobelins. Donc c'est un tableau qui compte.
Qu'est-ce que pour vous
qui est encore sur le marché. Il y avait, à ma connaissance, des discussions d'acquisition publique, mais je ne sais pas si elles ont abouti à ce stade. Il y a eu un tableau qui est passé en vente en Espagne sous une attribution erronée à Lagrenet, qui a été acquise par un collectionneur privé à Paris. Donc voilà, quelques... Et puis, le tableau vraiment important qui est ressorti de Pierre, c'est un massacre des innocents. Ou plus exactement, pour reprendre le titre du livret de salon de l'époque, le livret du salon de 1763, une scène du massacre des innocents. Ce tableau, il est pour moi extrêmement important, d'abord dans l'œuvre de l'artiste, mais aussi pour l'iconographie du sujet dans l'histoire de l'art, parce que on est sur une représentation qui en fait ne représente pas la scène tumultueuse du massacre des innocents, mais une femme qui se poignarde en fait de douleur avec son enfant mort à ses côtés.
C'est un tableau qui est passé à Vaux récemment.
Oui, c'est ça. Il a acheté passé chez Tajan. Oui. Ensuite, il était chez Didier Aron.
Voilà.
Il est maintenant dans une collection privée.
En France ?
Oui. Et c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'on est probablement qu'on a tous en tête la scène représentée par Léon Cogniet. On est vraiment dans ce schéma-là de concentrer l'action, et ça, là, c'est très frappant comme action, sur une scène particulière qui lui donne beaucoup de résonance.
Et c'est Pierre qui aurait inventé cette iconographie spécifique.
En tout cas, sur ce tableau-là, moi, je connais pas d'exemple où il y a cette concentration de l'action sur un seul personnage.
Est-ce que ces tableaux nouvellement découverts, vous allez les publier?
Oui, très vraisemblablement un jour. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas encore assez de matière pour le faire. Alors, au fil de quelques articles, j'ai pu mettre des notes, etc. Mais c'est pas encore le sujet, à mon avis, d'un article. Il n'y a pas suffisamment de nouveautés pour en faire quelque chose.
Alors, je me rappelle aussi, j'avais publié un article, et je vous avais consulté à l'époque, sur un tableau qui était conservé à l'hôpital de Nevers.
Ouais,
un hôpital qui a été vendu dans la chapelle. Et qu'est devenu ce tableau? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce tableau?
Alors, je n'ai pas de nouvelles de ce tableau. Effectivement, c'est un tableau qui en fait était un tableau qui était peint pour une église de Lyon, qui a été transféré à Paris pendant la Révolution, sans qu'on sache vraiment pourquoi ou comment surtout. Et ensuite, il a été envoyé à Nevers par l'administration napoléonienne à la demande d'un d'un notable local, et il servait de maître hôtel pour la chapelle de l'hôpital de Nevers. Cet hôpital a été entièrement transformé en centre commercial, parce qu'il y a un nouvel hôpital qui a été créé en dehors de la ville, et aujourd'hui la chapelle elle est fermée. Le tableau a visiblement été abîmé pendant les travaux, et même les contacts locaux qu'on a pu avoir n'ont pas pu nous donner de nouvelles sur le tableau. Je crois que le musée de Nevers est trop petit pour accueillir l'œuvre, si tant est qu'il soit intéressé. J'ai un espoir que un amateur lyonnais qui aime bien se démener pour ce genre de choses puisse obtenir quelque chose, mais parce que c'est un tableau qui probablement, compte tenu de son histoire, il a été peint pour l'église de la Sainte-Croix à Lyon, devrait rejoindre à minima un environnement lyonnais pour le sauver.
Mais est-ce que le problème, c'est que l'église, la chapelle de cet ancien hôpital est une belle chapelle, donc qui a accueilli ce tableau pendant un certain temps. Est-ce que ce n'est pas plus prudent et mieux finalement de le conserver dans cette chapelle et de le restaurer dans cette chapelle?
Il faudrait connaître les conditions de conservation à l'intérieur de la chapelle, ce que j'ignore totalement. C'est-à-dire que je n'ai jamais pu accéder à l'intérieur de la chapelle qui est fermée.
Qui appartient à qui?
Eh ben, ça appartient à je voudrais pas dire de bêtises, mais à l'époque c'était le groupe FH qui coordonnait les travaux, et je crois que le bâtiment lui appartient.
Donc voilà. Donc
on est sur un tableau qui est classé, hein, donc il n'y a pas de. Mais effectivement, le mieux ce serait qu'il reste là, mais
il faudrait peut-être
que ce soit une bonne condition de conservation.
Il faudrait peut-être contacter dans ce cas-là la DRAC. J'essaierai de contacter la DRAC moi-même. Je pense à ce tableau parce que je le reçois justement, et c'est le problème de temps en temps, c'est que nous écrivons des articles et on n'a pas forcément toujours le temps de suivre ce qui se passe. Et voilà typiquement un exemple où il faudrait qu'on sache ce que ce tableau est devenu. Peut-être que certainement la DRAC doit savoir où il est, puisqu'il est glacé, il doit...
Oui, très vraisemblablement. De toute façon, j'ai des courriers et des dossiers de la DRAC. C'est un tableau qui représente la découverte de la croix par Sainte-Hélène, qui s'insérait dans un cycle d'œuvres sur le cycle de la Sainte-Croix. Il y a d'autres tableaux du cycle de Restoux, de la Monce, de Krause, enfin même de Frontier, je crois. Donc c'est un ensemble assez important.
D'accord. Et est-ce qu'il y a, pour terminer sur Pierre, on passera ensuite à votre autre artiste, ouais. Et un peu plus tard, Subliras, est-ce qu'il y a d'autres tableaux de Pierre qui sont ainsi menacés ou pour lesquels vous pensez qu'il faudrait intervenir?
Spontanément, ne m'en vient pas à l'esprit. En revanche, moi, il y a toujours quelque chose qui me trotte dans la tête, c'est que on parlait tout à l'heure de l'église Saint-Roch.
Oui, c'est le plafond.
Il y a le très grand plafond que beaucoup de gens, j'imagine, connaissent, ou en tout cas, s'ils ne le connaissent pas, il faut aller dans l'église Saint-Roch, au fond, dans la chapelle de la Vierge, admirer ça. Ça fait quand même 400 mètres carrés de coupole, donc c'est pas rien. En revanche, en fait, Pierre avait peint deux plafonds à Saint-Roch. Parce que derrière la chapelle de la Vierge, il y a une deuxième chapelle qui est avant celle du calvaire, qui est une chapelle qui s'appelle la chapelle de la communion, dont on se rend pas vraiment compte de l'existence quand on est dans le bâtiment, parce qu'en fait elle est dans la suite des travées. Donc mais il y a en fait aujourd'hui il est exposé une arche d'alliance entre guillemets, c'est la chapelle de la communion, et il y a une coupole de à peu près 10 mètres de diamètre, donc c'est pas petit, qui était peinte à l'époque et dont la et qui a été qui aujourd'hui est recouvert d'une couche d'enduit. Je fais le pari que si on défait cette couche d'enduit, on retrouvera la peinture de Pierre. Il n'y a pas de raison qu'elle ait été démantelée.
Et vous en avez parlé à la mairie de Paris ou vous avez...
J'en ai parlé à l'architecte à l'époque des monuments historiques, qui m'a assuré qu'il avait fait des sondages et qu'il n'avait rien trouvé, mais j'ai pas pu le vérifier, et ça me paraît assez étonnant, parce que je vois pas pourquoi on se donnerait la peine d'enlever un plafond alors même qu'on a passé un enduit assez grossier et qu'il suffisait de le faire par-dessus.
Encore une affaire à suivre pour Pierre.
C'est un plafond, encore une fois, qui serait assez intéressant de retrouver.
Très bien.
Les nouvelles très très brèves.
Alors, les nouvelles très très brèves, qui ne sont en fait jamais très brèves, d'autant plus que la première est une nouvelle assez intéressante que j'ai découverte en fait cet après-midi. J'ai été informé par des amis que l'hérésie de Francis Soler, alors ça ne vous dit rien, l'hérésie de Francis Soler. Francis Soler est un architecte qui a recouvert le bâtiment des Bons Enfants qui se trouve sur la rue de... pas la rue de Rivoli, mais la rue de... son nom m'échappe, qui se trouve près de la rue de Rivoli, en tout cas, le bâtiment du ministère de la Culture. Il l'a recouvert d'une résile en métal qui a recouvert donc ce bâtiment de Georges Vaudoyer, un architecte de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ça a fait un petit scandale à l'époque. On a dit, et je pense qu'on avait raison, que le ministère de la Culture lui-même vandalisait un monument ancien. Les descendants de Georges Vaudoyer ont porté plainte. Et les descendants de Georges Vaudoyer ont gagné. C'est-à-dire que le ministère de la Culture et l'architecte ont été condamnés à l'époque à verser 1 € symbolique, car cette résille porte, je cite, une atteinte illégale au bâtiment. Mais malheureusement, le tribunal administratif n'a pas cru devoir imposer l'enlèvement de ces résilles, pensant sans doute, comme c'est souvent le cas, que ça coûterait très cher. Or, cet après-midi même, en ce moment, les résilles sont en train d'être déposées. Alors, j'ai interrogé le ministère de la Culture, on m'a dit que c'était temporaire pour, je crois, faire des travaux. Enfin bon, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais il n'empêche que si ces résilles sont déposées, rien n'empêche de les laisser déposer. Pourquoi est-ce que les héritiers de Georges Vaudoyer ne s'intéresseraient pas à cette question? C'est en tout cas la question que je pose dans cette nouvelle très très brève et que je vais m'empresser de demander aux associations. On peut toujours espérer que l'immeuble, qui est très beau en lui-même et qui n'a pas besoin de se voir recouvert d'une résille, soit enfin libéré de celle-ci. Deuxième nouvelle très très brève, alors celle-ci est très très brève mais très intéressante, c'est-à-dire que l'ambassade d'Italie, dans l'hôtel de la Rochefoucauld-Doudeville, dans le 7e arrondissement, 51 rue de Varennes, exposera du 6 au 28 février, tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 18h, le mariage de la Vierge de Rosso, qui vient d'être restauré et qui est conservé d'habitude dans la basilique San Lorenzo à Florence. Donc c'est l'occasion de voir un superbe chef-d'œuvre d'un artiste qui est très lié à la France, nouvellement restauré, donc il sera exposé du 6 au 28 février à l'ambassade d'Italie, et nous aurons l'occasion de revenir et de faire une petite brève sur cette nouvelle. Dernière chose, tout à l'heure, après cette émission, et même en même temps que cette émission, à la Nouvelle Athènes, c'est une nouvelle galerie rue Chaptal, une nouvelle galerie de jeunes galeristes spécialistes du 19e siècle, une exposition sur des œuvres autour de 1800. Donc je n'ai pas encore vu cette exposition, mais connaissant les galeristes, je pense que ça sera intéressant de visiter cette petite exposition qui est juste à côté du musée Carnavalet, où, je vous le rappelle, se termine une exposition sur les esquisses romantiques du 19e siècle. Est-ce que vous irez voir cette Nicolas Lesure?
Ah bah si je trouve le temps. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Aller voir ça, ça paraît une évidence. Oui, bien sûr.
Alors maintenant, on a parlé de Jean-Baptiste Marie-Pierre, que vous avez été édité chez Artena, et depuis vous êtes chez Artena une des chevilles ouvrières d'Artena. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'Artena? Je rappelle qu'Artena, la Tribune de l'Art en parle souvent parce que c'est vraiment une entreprise que je pense très important, qui est très important de défendre. Alors, parlez-nous un peu d'Artena. Qu'est-ce qu'Artena et qu'est-ce que fait Artena?
Alors, d'abord, effectivement, Didier, merci de soutenir Artena qui en a toujours bien besoin. Donc, Artena, c'est une association qui est en fait une maison d'édition, mais sous une forme associative, qui a été créée en 1977 par des conservateurs de musées, par des amateurs et par des professeurs des universités. Le but de l'association, c'est d'éditer des ouvrages essentiellement ayant trait à la peinture et au dessin plutôt français du 16e au 19e siècle, et qui bien souvent, et même maintenant dans la plupart des cas, si c'est pas dans tous les cas, n'aurait pas trouvé sans Artena d'éditeur. Parce que je pense qu'on sait tous que la crise que traverse le monde en général, mais le monde de l'édition en particulier souffre énormément. Les coûts de fabrication des ouvrages ont augmenté, en particulier en raison des photographies. Il se trouve que un bien pour un mal, la recherche progressant, les ouvrages sont de plus en plus volumineux parce que les auteurs trouvent de plus en plus d'œuvres. Donc c'est des ouvrages qui sont de plus en plus gros. Et donc pour toutes ces raisons, c'est une entreprise qui chaque jour, chaque année, essaye de se maintenir avec bien souvent l'aide amicale et indispensable de l'argent public d'un côté et bien souvent privé de l'autre. Bien souvent les mécènes privés fondons Artena de subventions.
Avec des fois qui veulent rester anonymes en plus.
Oui, on a même des grands mécènes qui veulent tout à fait rester anonymes et qui ont eu des actions qui sont et qui seront probablement déterminantes dans les années à venir, parce que Artena a bien évidemment pas mal de projets. C'est vrai que malheureusement, on constate que de plus en plus de maisons d'édition ont des difficultés ou sont réticentes à éditer des ouvrages soit scientifique, soit très très illustré. Et donc il est certain qu'on est quasiment maintenant la seule solution, et c'est triste de le dire, hein, pour bien des chercheurs de publier leurs travaux, parce que bien souvent ce sont des ouvrages qui sont issus de travaux de thèse, alors remaniés bien évidemment, mais c'est des ouvrages qui sont tout à fait fondamentaux dans la connaissance des artistes qui traitent. Là, très récemment, le dernier ouvrage paru, c'est une monographie qui était très attendue de longue date, hein, la monographie sur François-André Vincent de Jean-Pierre Cuzin,
qui a donné lieu d'ailleurs à une exposition.
Alors tout à fait, qui était en parallèle une exposition à Tours et à Montpellier. Et ça, c'est un point très important, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit qu'il est, quand on le peut, et c'est la qualité, je trouve, de l'écosystème, pour prendre un terme un peu actuel, Artena, c'est d'être en lien avec le monde à la fois des musées et de l'université, et de pouvoir concilier une exposition et un ouvrage de référence, parce que si l'un ne se fait pas, l'autre ne se fera pas. C'est-à-dire que on a plein d'exemples d'expositions qui ont empêché des monographies d'exister, hein. Sublera, c'est un excellent exemple.
Mais nous reviendrons sur
ça n'a pas de monographie au bout, voilà. Parce que et voilà, mais à l'inverse, on a aussi des exemples de monographies qui à ce stade empêchent des expositions.
Jean-Baptiste Marie-Pierre.
Voilà. Voilà, alors je vis les deux exemples dans le même temps, c'est-à-dire que Jean-Baptiste Pierre, je caresse le rêve d'un jour intéresser un musée pour faire une exposition. Je pense que le peintre le mérite. Et pour autant l'existence de la monographie peut être un frein, parce que les choses ont déjà été faites.
Il y a eu le Sueur en son temps, il y avait eu le catalogue Le Sueur, et l'exposition a quand même eu lieu.
Vignon aussi.
Mais Vignon c'était en même temps.
Oui, alors c'était en même temps. Et puis Vignon, là l'idée c'est d'essayer justement de cumuler les deux. Alors pour le prochain ouvrage, ce sera moins possible, parce que c'est un ouvrage qui sera, à mon sens, fondamental, hein. C'est un ouvrage qui est un ouvrage de Pierre Serrier, qui
sur le 19e.
Voilà, c'est alors le titre de l'ouvrage, c'est la peinture d'histoire en question entre 1860 et 1900. Le prince est issu de son travail de thèse et c'est une thèse au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire y a-t-il une disparition de la peinture d'histoire à cette époque-là, et quelles sont ces mutations. Et c'est l'occasion de révéler, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, enfin, pour être avoir vu un certain nombre de planches et de maquettes du manuscrit, de révéler une quantité de tableaux absolument fantastiques qui sont rarement connus et quasiment jamais publiés de toute cette période foisonnante de la peinture d'histoire.
Avec sans doute d'ailleurs des tableaux roulés encore et qui ne sont pas...
Alors dans certains cas, oui, et puis alors, c'est là où je crois l'apport aussi d'Artena, c'est d'être capable en plus de ça, de ne pas se contenter de la belle reproduction, mais de donner un appareil critique ou scientifique qui sont des outils de recherche. Et on a souhaité, même si ça pouvait paraître parfois un peu ambitieux, mettre publier aussi le travail qu'a fait Pierre Serrier de recension complète de tous les tableaux d'histoire de tous les salons de l'époque, indexés par artiste, indexés par année, indexés par sujet. Et donc, ce sera un outil qui, à mon sens, sera totalement indispensable pour les chercheurs qui s'intéressent à
la période. Alors, je crois en revanche que la peinture d'histoire, il ne comprend pas la peinture religieuse.
Alors, c'est un débat assez subtil, qui est lié à la conception de l'histoire à l'époque, dans lequel je me sens bien incapable de répondre, parce que moi qui suis effectivement plutôt 18e, pour moi l'histoire est plus large que ça.
Mais moi qui suis plutôt 19e aussi, je suis impatient de dire cela.
Je comprends qu'effectivement, le thème de l'époque, il y a des scissions entre le décor, l'histoire, la peinture religieuse, etc. etc. Voilà, ce sera justement l'objet et l'intérêt de cet ouvrage qui, à mon avis, fera parler de lui à la fois parce que il sera une référence, parce qu'il recensera suffisamment de tableaux pour être tout à fait indispensable, et surtout il sera une référence parce que je pense qu'il est en train de poser un débat dans des termes qui peuvent être probablement donner lieu à des débats intéressants.
Oui, effectivement, et rappelons que Pierre Serrier avait publié un livre sur Joseph Blanc. C'était Joseph Blanc dans les publié par l'école du Louvre, un très bon livre dont malheureusement je n'avais pas parlé sur la Tribune de l'Art alors que je l'avais lu. Ça fait partie de ces ouvrages malheureusement qui n'ont pas été critiqués sur la Tribune de l'Art, mais c'est l'occasion de dire tout le bien que j'en pensais. Je crois que vous ne voulez pas dire quels sont les autres livres après, parce que c'était un peu compliqué, c'est pas fait complètement. Comment choisit-on chez Artena les livres qui vont être publiés? Je suppose que vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de manuscrits, parce que effectivement, comme il y a beaucoup de maisons d'édition qui ne peuvent pas publier, il y a peu de maisons d'édition qui peuvent publier des ouvrages de ce type. Vous allez recevoir beaucoup de demandes.
Oui, on est évidemment à la fois heureusement pour Artena et malheureusement pour le monde de l'édition très sollicité. La manière dont ça se passe est assez simple entre guillemets, c'est-à-dire que tout repose sur le comité scientifique qui est constitué de professeurs des universités et de conservateurs de musées et qui font un choix qui est d'abord un choix scientifique, c'est-à-dire que il nous faut bien évidemment un manuscrit abouti, il nous faut on a des normes de tableaux, photos, etc. Mais il faut un manuscrit qui soit d'une qualité qui justifie sa publication chez Artena. Ensuite, bien évidemment, il faut aussi envisager sa possible diffusion, parce que même s'il y a des travaux de grande qualité sur des artistes, mais qui sont vraiment très 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 confidentiels, les coûts que ça engendre pour la structure ne nous permettent pas malheureusement toujours. Et puis après, c'est vraiment le choix se fait dans un souci constant d'avoir un équilibre entre les périodes, entre les genres.
Le 19e est un peu nouveau quand même. Il y a eu effectivement. L'opéra
oui,
hein, de
oui,
Jacques Foucault.
Oui, mais c'était un peu une exception. C'est vrai que désormais, il y a d'abord une demande plus forte de la part des 19e-istes de publier. Il y a une volonté aussi d'Artena, et c'est pour ça que le comité scientifique a été ouvert à des 19e-istes de publier, parce que la période en a besoin aussi des ouvrages de cette période, donc
il y avait eu l'atelier dingue, mais c'était une réédition également de l'ouvrage de Maurice Duval.
Mais là on est sur on a un certain nombre de projets qui devraient aboutir, mais c'est encore un peu tôt pour en être certain, et c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour en parler, mais qui vont être des à mon sens des choses assez importantes dans le 19e siècle. Et puis il y a toujours un sujet qui nous préoccupe, et je suis désolé, c'est ma casquette de trésorier qui parle, mais c'est malheureusement une réalité, c'est qu'il y a la dimension financière, c'est-à-dire que bien souvent, on essaye de trouver une subvention, une aide, soit alors par exemple le Centre National du Livre dans un certain nombre de cas nous soutient et on les en remercie, des mécènes privés, mais ça peut être aussi des communes, des mairies, des conseils généraux parce que l'artiste est né dans leur région, ça peut être des musées quand il y a une exposition qui est faite, enfin voilà.
Alors nous parlerons dans la troisième partie de cette interview de Subleras, mais je sais aussi que vous intéressez par exemple au paysage de Sanguine, au dessin, et vous faites des découvertes sur un artiste dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est intéressant d'en dire un mot également.
Oui, c'est gentil. En fait, c'est un artiste qui est totalement
Jacob Metal, c'est cela.
C'est pas très loin, c'est Friedrich Reclam.
Friedrich Reclam, complètement voilà. À côté. Alors,
voilà. Non, mais c'est normal parce que effectivement, c'est assez.
Je dois avouer qu'avant que vous m'en parliez, je ne le connaissais pas.
Voilà. Et en fait, non, mais je m'intéresse à ça parce que, en fait, un peu par hasard, parce que au fond, Reclam, je l'ai découvert parce que c'est un élève de Pierre.
Faites un peu de publicité pour Reclam, c'est une bonne chose.
Voilà, exactement. Et en fait, c'est donc un élève de Pierre qui est un Allemand, qui a passé 4 ans dans l'atelier de Pierre à Paris, puis 4 ou 6 ans, je ne sais plus, à l'Académie de France, enfin dans le milieu de l'Académie de France à Rome, parce qu'il n'a pas été pensionnaire, n'étant pas Allemand, n'ayant surtout pas gagné le Grand Prix de l'Académie, et qui était là-bas, exactement, et voire un tout petit peu avant d'ailleurs, des dessinateurs évidemment beaucoup plus connus et talentueux que lui, que sont Fragonard et Hubert Robert. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de décrypter ou de comprendre en fait la genèse de ces grandes sanguines célébrissimes d'Hubert Robert, de Fragonard. D'ailleurs, il y a une exposition qui est sur le point, qui vient de s'achever à Besançon sur les Hubert Robert de Besançon, qui est un travail remarquable qui a été fait par Sarah Catala, qui est très riche, qui, je crois d'ailleurs, doit être le début d'un travail général de catalogue raisonné des dessins d'Hubert Robert. Donc, si c'est ça, je tire mon chapeau. Mais donc, il y a toute une mouvance autour de, alors c'est très pointu hein, peut-être, mais entre 1758 et 1760, sur pourquoi est-ce que tout d'un coup ces artistes font des grandes feuilles à la sanguine très 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 spectaculaires. Alors souvent on dit sénatoire parce que il aime bien le paysage et puis il est le directeur de l'Académie de France à Rome. En réalité, natoire, qu'il l'ait encouragé, c'est incontestable, qu'il en soit à l'origine me paraît plus douteux, parce que ces paysages à lui ont un côté très différent. D'abord, ils sont à l'aquarelle, ils fourmillent de petits personnages, ils sont plutôt dans un style qui relève des années 1720-1730, d'ailleurs, comme l'avait montré Susanna Caviglia dans son livre sur Natoire. Donc, il y a pour moi quelque chose à découvrir, et surtout, il y a probablement énormément de mains autres que Robert Fragonard, ou Reclam, ou Taraval. On peut penser à Amand aussi.
Vincent même.
Alors, Vincent, un peu plus tardif, c'est ça la subtilité, c'est que Vincent lui, là-bas, vers 72-74.
Mais on peut confondre encore des...
Oui, on peut confondre, tout à fait. Et c'est ça. Et en fait, l'œil a du mal à encore s'affiner, et surtout on manque de repères parce qu'elles sont rarement signées. Souvent, il y a des contre-épreuves. Souvent, les œuvres ont changé de main entre les artistes et se sont échangées. Donc, c'est un sujet à la fois passionnant, ardu, difficile, mais à mon avis, prometteur de riches découvertes.
Très bien. Merci.
La revue de presse.
Cette revue de presse, nous allons commencer avec une avec un journal régional, je ne sais plus, la presse régionale, qui de temps en temps et même souvent fait ce que ne font plus les grands quotidiens, c'est-à-dire qu'ils parlent du patrimoine de proximité, et nous essaierons au maximum de parler dans cette revue de presse de ce que peuvent nous révéler certains articles très intéressants de la presse régionale. Donc c'est la Nouvelle République, donc qui nous parle d'un retable dans une église, l'église Sainte-Croix, qui se trouve à Migné-Auxances dans la Vienne, donc un petit village que personne ne connaît, enfin que très peu connu en tout cas, mais il y a un très beau retable Art déco. Nous mériterons une photo sur le site de Jean Gaudin, construit enfin élaboré en 1931 et classé monument historique, et malheureusement ce retable se dégrade. Donc l'article avait pour objectif d'attirer l'attention du public sur cette œuvre d'art qui je vais vous lire là ce qu'écrit donc Marie-Julie Messant, l'auteur de cet article. Jean Gaudin, fils de mosaïste, invente cette technique qui consiste à couler du béton dans un moule où sont disposées des tiges de métal, future ossature de la pièce, et des morceaux de verre colorés dans la masse ou des tesselles de mosaïque. Pour la petite histoire, Gaudin s'est fait prendre de court pour le dépôt du brevet et son idée. C'est Auguste Labouret qui le dépose en 1933 sous le nom de vitrail en dalle éclatée à réseau de ciment armé. Donc vous voyez qu'on peut dans la presse régionale trouver des articles très intéressants qui apprennent des choses, et en particulier donc ce retable souffre et la DRAC envisage de faire une restauration. Donc il faut espérer que l'article aura pour conséquence, et le fait que nous en parlions aujourd'hui, d'aider à la sauvegarde de ce retable. On sait que les œuvres art déco sont à la fois magnifiques et souvent très menacées. Il y a beaucoup d'églises art déco, même à Paris, avec de très beaux retables qu'on espère sont conservés. Parce que l'art déco, j'en ai beaucoup parlé dans la tribune de l'art, l'art déco, on le redécouvre, on en parle beaucoup, on fait des expositions, mais il est souvent détruit. Voilà. Donc, autre revue de presse sur les présidents d'établissements publics. On n'en finit pas ces dernières semaines de parler des différents présidents d'établissements publics, Orsay, Picasso, Beaubourg, pour ne pas les citer. On se rappelle la semaine dernière que nous parlions des articles de Vincent Noce, en particulier sur les grands-ducs. Aurélie Filippetti, les grands-ducs. Eh bien, Sabine Gignoux, une excellente consoeur de la Croix, a fait une enquête assez complète sur trois établissements publics, et elle arrive à la même aux mêmes conclusions que ce qu'on a pu voir pour Vincent Noce sur le fait que ces grands établissements publics sont à la fois totalement indépendants ou presque du ministère de la Culture, ce qui peut poser problème. Ils sont gérés des fois de manière un peu discutable, et ça peut avoir pour conséquence parfois de mettre des œuvres en danger en les déplaçant un peu de manière inconsidérée. Alors j'annonce à l'avance que demain, normalement, je publie moi-même un article sur le musée d'Orsay où je montrerai un certain nombre de faits assez regrettables. Donc je vous invite à regarder cet article demain. Autre article que je signale, qui vient de Belgique cette fois-ci. Dans Marianne Belgique, il y a un avatar de Marianne en Belgique, et Muriel de Créancourt a écrit un autre article, un peu de la même eau finalement, qui s'appelle « Qui a peur de Michel Draguet ?». Donc Michel Draguet est donc le directeur des musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, il est directeur par intérim des musées du Bicentenaire, à Bruxelles également, et il est extrêmement discuté dans son pays, et cet article fait un peu le résumé de ce que pensent beaucoup de Belges qui m'écrivent souvent sur la tribune de l'art pour se plaindre de la gestion des musées. J'avais parlé du musée fin de siècle, il n'est pas vraiment un musée, et le musée fin de siècle, Muriel de Créancourt, dans cet article qu'elle a repris sur son blog, un blog qui a été très consulté, je crois qu'elle a 2000 visiteurs par jour, chaque jour, depuis qu'elle a écrit cet article, ce qui prouve l'intérêt que Michel Draguet occasionne, enfin provoque en Belgique, hein, donc c'est une personnalité assez discutée, et en tout cas c'est intéressant de lire ce qu'écrit Muriel Le Crayoncourt, également le droit de réponse de Michel Draguet qui lui a fait un droit de réponse et qui est également publié sur son blog. Maintenant retournons-nous vers Nicolas Le Sur et parlons parlons de Sublerace qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est votre artiste fétiche maintenant après Pierre. Vous faites des infidélités à Pierre avec Friedrich Reclame, on l'a vu, mais surtout avec Sublerace. Alors je me rappelle de l'exposition Sublerace qui avait eu lieu, je crois, il y a une vingtaine d'années au Luxembourg. C'était une des premières expositions que j'avais vues qui m'avait marqué, une exposition organisée notamment par Pierre Rosenberg avec j'avais découvert cet artiste que peu de gens à l'époque connaissaient, qui est un artiste français qui a travaillé à Rome. C'est vraiment un grand peintre. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que le catalogue n'était pas un catalogue complet? On voyait qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui avaient une, deux, trois, quatre versions. Ça doit être très compliqué de travailler maintenant sur Sublerace.
Alors oui, c'est très compliqué et c'est en même temps très passionnant parce qu'effectivement, l'exposition de 87, elle avait vraiment révélé l'artiste au public. Le but de Pierre Rosenberg et d'Olivier Michel à l'époque.
Olivier Michel, le second.
Oui, voilà. Qui était un tandem fantastique parce que c'était à la fois l'œil et la plume, l'œil et l'archive. Enfin, c'était quand même ça a quand même fait quelque chose de tout à fait remarquable. C'est un catalogue que j'ai dans les deux versions françaises et italiennes. Il y a des toutes petites différences entre la version italienne.
Je n'ai jamais vu la version italienne.
Si elle existe, elle m'a gentiment été offerte par Olivier Michel. Et c'est un catalogue où chaque signe typographique, où ça, chaque note, chaque renvoi a une importance. Mais c'est un catalogue qui contient une frustration parce que quand ils avaient fait cette exposition, ils avaient espéré imaginer qu'un éditeur subjugué par la qualité de l'œuvre de Sublerace, qui aurait dû être le cas d'ailleurs, leur aurait commandé une monographie. Cette commande n'est jamais venue. Et donc 27 ans après, effectivement moi je suis en train d'essayer de faire cette monographie. Alors j'ai publié l'année dernière avec Pierre Rosenberg, j'ai eu à la fois le privilège et la chance de travailler avec lui là-dessus sur un cahier du dessin, donc où on a publié une soixantaine de feuilles de Sublerace, qui est quasiment on a publié plus de la moitié de son œuvre, hein. C'est-à-dire que l'œuvre dessinée de Sublerace est très réduite, en tout cas celui que l'on connaît aujourd'hui, sachant que par exemple on ne connaît aucune œuvre à la plume, peut-être une main nous échappe-t-elle, peut-être n'a-t-il jamais dessiné à la plume, mais en tout cas aucune œuvre certaine à la plume n'existe aujourd'hui, et c'est donc les prémices d'un travail qui s'annonce, je pense, assez long quand même, parce que même s'il n'y a pas énormément de compositions, il y a beaucoup de versions, il y a des versions préparatoires, il y a des versions qui sont des dérivés, il y a des copies, il y a des pastiches. Donc c'est un peu sans fin, et il y a même des compositions qui ont été dérivées sous d'autres formats. Je pense à Au Saint-Jérôme par exemple, qui avait été peint pour une église à Milan et qui est à la Brera maintenant, Saint-Jérôme avec, écoutons les trompettes du jugement dernier, et qui a fait l'objet en fait d'une dérivée de la composition où l'action se concentre sur Saint-Jérôme seul sans les trompettes et sans les anges, avec une autre esquisse préparatoire, donc c'est assez, tout ça est assez emmêlé, mais heureusement ou malheureusement, mais il y a beaucoup de travail.
C'était le tableau dont une version était apparue Nana Mouskouri, voilà. J'avais fait un article à l'époque qui était assez amusant dans une collection qui n'était par ailleurs pas très passionnante. Voilà. Mais bon, voilà, donc et comment vous arrivez à faire là? Est-ce qu'il y a beaucoup de copies? Dans toutes ces répliques, est-ce qu'il y a beaucoup de copies?
Il y a beaucoup de copies. Il y a, je crois, plus de copies qu'on imagine d'ailleurs, parce que maintenant, on commence à voir, enfin, commence modestement à avoir un petit peu plus la main dans l'œil. C'est vrai que c'est un travail qui sera forcément un peu long parce que comme pour tous les artistes, il faut vraiment s'imprégner de sa manière, de sa façon de penser, de composer, etc. Et donc ça peut pas se faire en deux ans. Enfin, on peut pas faire quelque chose comme ça à ce niveau-là. Il faut pas non plus le faire en 15 ans parce que sinon on s'émousse et puis on le fera jamais. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de copies. Et puis il y a tout un pan de son œuvre qui reste à redécouvrir, c'est-à-dire que sa carrière ce avant Rome est très très mal connue. Quand il est à Toulouse, alors d'abord comme élève de Rivals, puis probablement plutôt comme collaborateur, on a encore du mal à déjà à identifier des œuvres et à faire la part des choses avec Rivals dans ses œuvres de la région toulousaine.
Ça n'était pas abordé du tout, je crois, dans l'exposition
Assez peu, parce que c'est l'exposition qui avait volontairement... alors c'était Paris et c'était aussi la Villa Médicis à l'époque.
C'était une version italienne.
Et c'était volontaire parce que l'idée c'était que derrière il y aurait un travail travail plus approfondi sur un certain nombre de points. Donc c'est vrai que les dessins avaient été peu abordés autrement que préparatoire à telle ou telle composition. D'où l'importance du cahier du dessin qu'on a fait là pour montrer les dessins et la main de Subleyras. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a également, profité pour publier les devis italiennes du XVIIIe siècle de Subleyras. Donc ça, c'est deux documents qui sont très intéressants. Et puis, toute la partie toulousaine était, est mal connue parce que c'est encore la peinture toulousaine du début du XVIIIe siècle, un chantier ouvert. Alors il y a eu des travaux importants, puis il y a une jeune doctorante qui travaille sur cette période-là, mais c'est quand même des périodes qui sont encore mal connues.
Oui, et quelques découvertes récentes sur Subleyras en exclusivité pour la Tribune de l'Art.
Alors, des découvertes récentes, il y a eu, c'est plus une exclusivité, il y a un certain nombre de tableaux qui sont réapparus sur le marché, donc ça c'est malheureusement pas des exclusivités, il y a un martyr de Saint-Hippolyte par exemple.
Oui, c'est très curieux, vous avez travaillé d'ailleurs c'était chez Emmanuel Marty de Cambière, ouais. Et donc vous avez écrit sur le catalogue avec Bruno Chenic d'un côté, parce que c'est un tableau, racontez l'histoire de ce tableau, on en avait parlé sur la Tribune de l'Art, mais c'est très intéressant.
C'est un tableau qui est très très intéressant parce qu'en fait c'est un tableau qui a appartenu à des gens qui étaient liés à Jéricho et qui représente le martyr de Saint-Hippolyte, donc avec deux chevaux qui sont dans la composition et dont l'un d'eux notamment était entièrement repris et retravaillé par Jéricho. Et donc on a deux mains qui sont totalement antagonistes, la fougue, la connaissance intime de la même pas de la physionomie mais presque de la psychologie chevaline de Jéricho, et puis de l'autre une composition extrêmement réfléchi, calme, sobre de Subleyras. Donc c'est un tableau qui est à la fois très quelque part dérangeant parce qu'il y a deux mains qui sont très dissonantes, et en même temps c'est un extraordinaire tableau pour comprendre toutes les sensibilités qui peuvent s'exercer dans la peinture.
Alors je me pose une question sur ce tableau. Évidemment c'est Jéricho, ça ne serait pas Jéricho, on parlerait peut-être de vandalisme parce que repeindre sur un tableau.
Oui, mais c'est vrai que c'est une vraie question, et on n'a pas réussi à savoir si c'était parce qu'il avait été abîmé qu'il a été repris, ou si c'est parce que Jéricho s'est dit vraiment ce pauvre Subleyras, c'est pas peindre les chevaux, je vais lui montrer.
On ne saura jamais.
C'est probablement ça, mais du coup c'est un tableau qui est très atypique, ouais, très atypique.
Et en Italie, est-ce qu'il est resté à Rome, il a voyagé un peu en Italie?
Alors, il est allé à Naples, il avait une santé fragile, donc pour resituer ses dates, il arrive à Rome en 1729 ou 28, oui. Il est pensionnaire à l'Académie de France jusqu'en 1735 parce qu'il prolonge plusieurs fois son séjour contre l'avis de Vlegels qui finit par arriver
Nicolas
à sortir.
Vlegels, qui était le directeur
de l'Académie. Et puis ensuite, en 35, il s'installe à Rome jusqu'à la fin de ses jours en 1749. Donc il est mort à l'âge de un peu moins de 50 ans. Et il a fait un voyage avéré à Naples pour des raisons de santé, en fait, vers la fin de sa vie en 47-48, juste avant de terminer son grand tableau qu'il a peint pour Saint-Pierre de Rome. Hein. C'est l'un des quatre artistes français qui ait peint un tableau pour Saint-Pierre, donc qui de plus a été transcrit en mosaïque immédiatement, ce qui était
Sainte-Marie-des-Anges,
exactement. Et puis à Naples, il a fait un portrait perdu, d'ailleurs, qui doit exister d'après les textes en deux versions, un portrait équestre du maréchal de la Vieuville. Parce que c'est ça qui est intéressant chez Subleyras, c'est que c'est à la fois un très grand peintre religieux, c'est un très grand portraitiste, c'est un coloriste hors pair et un dessinateur peint fantastique. Le dessinateur papier, enfin les œuvres sur papier sont belles, mais c'est pas un très grand dessinateur. En revanche, le dessin sur sa toile est fantastique. Et puis, et c'est aussi à quelqu'un qui, quand il s'aventure dans les scènes de genre, comme dans les contes de La Fontaine par exemple, sait avoir une verve incroyable et très subtile.
Et est-ce qu'il y a des historiens de l'art italien qui travaillent sur un peintre français en Italie? Comme celui-ci?
Non, pas vraiment. Subleyras, c'est difficile. C'est un peu comme ça fait partie de ces apatrides, c'est-à-dire que les Italiens ne le reconnaissent pas vraiment pour un des leurs, et les Français ont du mal à savoir s'il est vraiment français ou italien. En plus, comme il n'a pas une carrière parisienne et plutôt provinciale, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est les Français qui vont s'y intéresser. Maintenant, c'est vrai que là, il y a beaucoup d'études en ce moment sur le 18e italien, et donc c'est forcément des choses qui vont. Mais c'est quand même une période qui est moins étudiée que le 18e français, je trouve, en termes bibliographiques.
Livre.
Alors, les livres, assez peu de livres reçus cette semaine. Livre également revu, Sites et Monuments. Nous avions reçu la semaine dernière Alexandre Gadi, donc le président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, donc il nous parlait de sa revue, et donc la revue vient de paraître, donc qui parle de la loi de 1913, dont vous savez que nous fêtions l'année dernière le centenaire. Il doit y avoir une nouvelle loi qui va se substituer à la loi de 1913. Elle sera votée normalement dans le second semestre 2014, nous y reviendrons. Donc cette revue Sites et Monuments, je vous conseille de l'acquérir, et je conseille comme la dernière fois d'adhérer à la Société pour la protection des paysages et des saisies de la France. On ne le répétera jamais assez. Un seul livre, en fait, que reçu cette semaine, c'est un livre, c'est sur Fragonard, donc ça vous concerne certainement un petit peu, mais c'est un livre uniquement en allemand, puisque c'est une exposition qui a lieu actuellement à Karlsruhe, au Sächsische Kunsthalle de Karlsruhe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le feuilleter, ce livre, ou
non,
de voir l'exposition?
Je savais même pas que
voilà, donc, je le signale simplement, donc c'est un livre sur Fragonard en allemand, donc pour les germanophones, ça sera très intéressant, ça sera un peu plus compliqué pour ceux qui ne le bredouillent qu'un peu comme moi, mais voilà, donc un livre sur Fragonard. Est-ce que vous avez d'autres livres récents qui vous ont marqué, puisque c'est vrai que ce que nous avons reçu cette semaine est assez pauvre, à part ce Fragonard?
Alors moi j'ai déjà parlé tout à l'heure des Hubert Robert de Besançon. Je trouve que c'est un travail qui forme un socle très intéressant pour l'étude d'Hubert Robert. Et puis moi c'est le catalogue de l'exposition Artists and Amateurs Etchings of the 18th Century au Metropolitan de New York, que je trouve tout à fait intéressant. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de donc une exposition qui a le mérite d'avoir été organisé par le Met à New York sur un sujet quand même assez pointu, hein, la gravure par les amateurs et les artistes français du XVIIIe siècle, souvent de l'eau forte. On n'y apprend pas, c'est une très bonne synthèse du sujet, et en revanche il y a beaucoup d'inédits. À cette occasion, je dois, petite anecdote, il y a une gravure inédite de Pierre qui a été découverte par Perrinstein, qui était dans notre catalogue à l'époque, mais comme avec aucun exemplaire localisé, et donc Perrinstein en a retrouvé un exemplaire à Philadelphie, donc c'est tout à fait passionnant, au moins pour Pierre, et puis il y a beaucoup de belles gravures comme ça.
Ouais. Très bien. Alors, Nicolas Lesure, l'émission va bientôt se terminer, mais je souhaitais quand même voir avec vous que vous me parliez un petit peu de votre autre activité, parce que vous avez une double vie, en fait.
Ouais.
Comme moi-même, j'ai longtemps eu une double vie. Ouais. Au moment où je commençais la Tribune de l'Art, je travaillais par ailleurs dans un domaine complètement différent, ouais, qui était de conseil en organisation. Vous étiez, il n'y a pas très longtemps, financier, et vous avez quitté votre job l'année dernière pour créer une société.
Ouais.
Dites-nous en deux mots, puisque après tout, l'histoire de l'art, il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est intéressant puisque nous avons, pour une fois, quelqu'un qui ne fait pas que l'histoire de l'art, de nous dire ce que vous faites à côté de cela.
Alors oui, effectivement, moi c'est l'histoire de l'art n'est pas mon métier, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai créé il y a quelques mois une société qui s'appelle Uniland, qui est en fait un site internet qui permet aux particuliers de prêter leur argent en direct à des PME qui ont besoin de crédit. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent et qu'on souhaite développer en France pour permettre justement d'une part aux Français de savoir à quoi sert leur argent et d'autre part aux PME de trouver une alternative au financement bancaire qui est quand même très compliqué en ce moment et c'est amené à durer.
Donc quelque chose de très étranger à l'histoire de l'art.
Tout à fait différent.
Voilà. Il n'y a pas, il pourrait très bien y avoir une galerie ou même la Tribune de l'Art qui vous demande de l'argent. Je ne le ferai pas, je vous rassure.
Oui,
ce n'est pas un traquenard.
On pourrait, enfin, effectivement, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très différent.
Ouais. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Nous reviendrons la semaine prochaine, vendredi 7 février, où nous parlerons de Versailles avec Alexandre Maral, qui est conservateur des sculptures à Versailles. Nous parlerons en particulier des restaurations des sculptures du parc et également des ouvrages d'Alexandre Maral, qui lui aussi...
Notamment un très bel Arthénal, la chapelle royale de Versailles.
Exactement, j'allais le dire. il a fait un très beau travail chez Arthénal sur la chapelle de Versailles. Voilà un des livres dont j'aurais dû parler, dont je n'ai pas parlé sur la Tribune de l'Art, mais la Semaine de l'Art est là pour rectifier cette question. Écoutez, merci beaucoup Nicolas Lesure pour votre venue.
Merci Didier.